Francis a appelé en réalité Bronstein. Et de même que Lénine n'est pas quelqu'un qui sort du prolétariat, puisque son père avait fini par être anobli, notre Bronstein n'est pas non plus quelqu'un du prolétariat, c'est un juif ukrainien. Son père avait une exploitation agricole, et on parlera assez, vous le savez, du Kulak, c'est-à-dire des paysans enrichis. Ben, il faut reconnaître que Bronstein est le fils d'un Kulak. Son père avait de l'argent, il allait faire des études à Odessa, Ukraine, vous savez, Odessa, hein, fait des études de mathématiques. Il va aussi à Nikolaïev, à un moment qui est à côté d'Odessa. C'est un garçon qui est très travailleur, qui est très intelligent. Il y a une photographie de l'enfant Bronstein vers 11 ans, 12 ans, qui est très rossé. Il a un beau regard très clair. Il avait des yeux très purs, des yeux bleu clair. Il avait l'air assez fier de lui, mais bon travailleur. Et on ne sait pas exactement à quelle date, vers 16 ans, 17 ans, il a commencé à s'intéresser aux idées révolutionnaires. Du côté de Nikolaïev, il y avait un jardinier, qui était un brave type, très cultivé. Ce jardinier réunissait clandestinement chez lui des jeunes gens et jeunes filles qui étaient d'esprit révolutionnaire. Et c'est là que Bronstein, futur Trotsky, va rencontrer une fille qui s'appelle Alexandra Sokolovsky, qui se moquait un peu de lui parce qu'elle était marxiste et lui n'était pas encore marxiste. Et alors il se moquait en disant l'un contre l'autre, oh, vous avez des idées abstraites. Et peu à peu, Trotsky réfléchit, il pense que cette fille est plus intelligente que lui et qu'elle a raison d'être marxiste, il se met à étudier Marx. Et le voilà qu'il va se faire arrêter comme Lénine s'est arrêté lui aussi. Je dois vous dire tout de suite, c'est intéressant de savoir que la vie de Trotsky est plus longue que celle de Lénine. Lénine est mort à 52 ans, Trotsky aura 61 ans lorsqu'il va être tué, tandis que Staline, vous le savez bien, la vie jusqu'à 74 ans, enfin 74 ans, et j'ai oublié de vous dire que Bronstein et Djougashvili sont plus jeunes que Lénine. Lénine né en 1870, et l'un comme l'autre, Djougashvili et Bronstein, né en 79. Alors vous le voyez qui part dans l'idée révolutionnaire et qui se fait arrêter en 95, comme vous vous rappelez peut-être, et il se fait arrêter lui quand il avait 25 ans, et ça fait 18 ans, vous vous rendez compte, à 18 ans que Trotsky fait connaissance avec la prison. Plusieurs fois, il sera encore emprisonné, quand il va sortir de prison, comme Lénine est sorti de prison pour une relégation, on l'envoie en Sibérie, et pendant qu'il était en train de faire sa prison avant l'exil, ou la relégation comme vous voudrez, il va en prison épouser cette Alexandra Sokolovsky. Bon, il part avec elle, puisqu'ils sont exilés tous les deux, en Sibérie, mais en 1902, il décide de se sauver. C'était facile, vous savez, on pouvait se sauver de Sibérie assez facilement. Il avait pourtant deux enfants, il avait deux filles, hein, Nina et Zina. Et d'accord avec Alexandra, avec sa femme, il dit, ben, je vais me sauver, toi tu resteras avec les enfants. Quand il la quitte en disant, bon, on se retrouvera peut-être plus tard, il la retrouvera jamais. Mais il faut que vous sachiez qu'Alexandra gardera toujours à son ex-mari, il va l'abandonner, à son ex-mari Trotsky, une profonde estime. Hein. D'ailleurs, il s'occupera des filles, mais il n'est absolument pas égoïste à cet égard, mais enfin, il n'y aura plus d'Alexandra dans sa vie. Alors, il s'est sauvé, il arrive en France, clandestinement, puis ensuite il va en Angleterre, et il veut voir ce personnage qui s'appelle Lénine, qui commence à signer Lénine, et qui a effectivement publié ce livre « Que faire ?» Donc vous vous rappelez peut-être, j'en ai parlé au moment de Lénine, qui est indiquant ce qu'il faut faire pour avoir une chance révolutionnaire, il faut que le prolétariat soit dirigé par un groupe d'intellectuels qui sache dans quelle direction marcher. C'était un ami révolutionnaire de Lénine qui avait recommandé ce jeune Bronstein à Lénine. Bronstein arrive, c'était à Londres, et Nadia Kropskaya, la femme de Lénine, racontera, bon, il a reçu ce Bronstein qu'il ne connaissait pas, et c'est enthousiasmé pour lui. Il a trouvé qu'il était un garçon extrêmement dévoué, remarquable, intelligent. Il a fait entrer à la rédaction de l'Iskra. L'Iskra, c'était l'étincelle, le journal révolutionnaire que dirigeait Lénine. Il aura même des difficultés avec Plekhanov, parce que le vieux Plekhanov n'aime pas ce jeune Trotsky et voudrait ne pas l'associer à la direction de l'Iskra. Toujours est-il qu'il va y avoir ce congrès, vous savez bien, le congrès Bruxelles-Londres, c'est 1903, le deuxième, mais en réalité le premier, congrès social-démocrate. Et là, Lénine et Trotsky sont ensemble. Mais la coupure, gênante, va s'établir entre Lénine et Trotsky à la suite de ce congrès. Et cependant, au début du congrès, le bruit courait que Trotsky était tellement dévoué à Lénine qu'on l'avait même baptisé la trique ou le bâton ou la matraque de Lénine. À quel point, semblait-il, il lui était dévoué. Et puis, pour des raisons qui m'échappent, je ne sais pas trop pourquoi, voilà Trotsky qui va changer d'attitude et qui trouve que les Lénines ont raison et qu'après tout, ce qu'a demandé Lénine dans Que faire est excessif. Et c'est là qu'il écrira cette phrase qu'il ne voudra plus jamais qu'on reproduise après. Les idées d'Élie sont extrêmement dangereuses parce que soi-disant c'est la dictature du prolétariat. En fait, ce sera la dictature que d'un comité central. À l'intérieur du comité central, ça sera la dictature d'un petit groupe de gens qu'on appellera plus tard, vous le savez, le bureau politique. Et peut-être même que se substituera à ce bureau politique un seul homme. Ben, vous savez que l'histoire nous donnera raison. Effectivement, à partir de 1929 à peu près, c'est Staline qui gouvernera tout. Toujours est-il, c'est sur la question de la discipline du parti et le fait que ce n'est pas une véritable dictature du prolétariat mais d'un appareil du parti, c'est là que la coupure va s'établir. Lorsque, bien des années plus tard, je crois que c'est en 29, Trotsky commencera à écrire pour gagner sa vie du reste. Nazi, quand il racontera Nazi, il sera très glissant, vous savez, sur les difficultés qu'il a vues avec Lénine. Parce que Staline, à ce moment-là qu'il le déteste, ne cessera de dire, vous savez, ils étaient très mal, Staline et Trotsky. Lénine avait ouvert les yeux sur ce qu'était Trotsky, alors Trotsky ne veut pas dire la vérité. Or, en réalité, tension extrême, violente, je dis bien violente, entre Lénine d'une part et Trotsky d'autre part. Ils échangent des mots très durs, c'est à ce moment-là qu'en 1904, je crois, dans un texte de lui, un texte polémique, Trotsky appelle Lénine Maximilien Lénine, pour dire qu'il est fait de Pierre Robespierre au petit pied, une caricature de Robespierre, un homme mauvais, un homme méchant, et en 1912, il y aura encore quelque chose de plus violent entre eux, parce que Trotsky avait établi, avait tenté de lancer un petit journal à Vienne, sans parler à Vienne, qui s'appelait La Pravda, la vérité. Et Lénine, sans lui demander la permission, lui chip son titre La Pravda pour le donner à ce journal que l'autocratie Zaris avait permis en 1912 de paraître à Moscou. Alors quand Trotsky, qui était directeur de la Pravda de Vienne, apprend qu'il y a une Pravda officielle et social-démocrate qui a le même titre, il échange avec, enfin il écrit à Lénine des lettres extrêmement violentes en lui disant « Vous êtes un escroc ». À quoi on voit Lénine répondre des choses comme ceci, « Oh, je sais très bien qui est ce personnage de Trotsky, c'est un menteur, c'est un narcissique, c'est un misogyne. » Vers les Balkans, nous sommes en 1912, pour gagner sa vie, Trotsky, qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui s'est lié maintenant avec une fille qu'il avait rencontrée à Paris, et qui s'appelle Natasha Sheldova, il vit avec elle, il va avoir deux enfants, c'est deux garçons, donc il a deux filles avec sa première femme, et avec Natalie, comme il l'appelait, Sheldova, il a maintenant deux garçons, pas beaucoup d'argent. Alors il s'est fait envoyer comme correspondant de guerre d'un journal social-démocrate, enfin assez timide, qui paraissait actif. Bon. Alors il est correspondant de guerre au Balkan, puis voilà la déclaration de guerre de 1914, et il faut que vous sachiez que sa réaction est à peu près semblable à celle de Lénine. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de vous rappeler la réaction de Lénine devant la guerre. C'est une indignation, exactement une indignation, puisque les socialistes français et les socialistes allemands avaient dit en cas de guerre, on ne fera pas la guerre, on organisera une grève générale et simultanée en France et en Allemagne. Les trains sont obligés d'arrêter parce que les cheminots ne marcheront plus. Les fabrications de guerre sont obligées de s'arrêter parce que les usines ne seront plus peuplées par les ouvriers. Pas du tout. Pour des raisons nationales, enfin pour des raisons de défense nationale, parce que les socialistes français sont persuadés que l'Allemagne a attaqué, ce qui est vrai. Et parce qu'en Allemagne, on a dit aux socialistes allemands, ce qui était un mensonge de Bethmann-Hollweg, que les Français, sans déclaration de guerre, avaient jeté des bombes sur Nuremberg, les socialistes français et les socialistes allemands s'entretuent, et Lénine, comme Trotsky, dit, mais c'est une indignité, seulement. Il vit à ce moment-là à Paris. Il avait pu se faire envoyer comme correspondant aussi de son journal. Il dirigeait même un petit journal d'opposition qui s'appelle Nash et Slovo, je ne sais pas bien comment il faut prononcer, qui signifie notre parole. Et comme il vit à Paris, il ne peut pas dire toute la vérité, il ne peut pas dire qu'il faut transformer, comme le demandait Lénine, cette guerre nationale en une guerre civile. Et pour reprendre une image que j'avais indiquée à propos de Lénine, la coupure, disait Lénine, ne doit pas être verticale, nation contre nation, mais horizontale, c'est-à-dire qu'il y a une case d'exploiteurs et une case d'exploités. Il faut que les exploités russes, allemands et français s'engagent tous dans une lutte violente contre leur gouvernement respectif. Il ne peut pas dire ça parce qu'il est fait à Paris, parce que la France l'embête beaucoup, parce qu'il y a des articles de Haché Slovo qui sont quelquefois remplacés par du blanc, mais en réalité, il pense à peu près comme Lénine. Il se rapproche de Lénine. Vous savez peut-être aussi que Lénine va tenter à deux reprises d'organiser des rencontres internationales, oui, en Suisse, où il habite. La première est Zimmerwald, qui est en septembre 1915, la seconde est à Kintal, qui se trouve tout près de Berne, où des socialistes français et des socialistes allemands se serrent la main. Alors que ce sont des belligérants, mais il faut que vous sachiez que Lénine avait essayé d'empêcher Trotsky de venir. Il a toujours, Lénine a toujours cette crainte à l'égard de Trotsky, est-ce que c'est pas un habile, est-ce que c'est pas un parisien? et il avait tenté, lui, Lénine, de l'empêcher de venir, d'empêcher Trotsky de venir à la Réunion. Mais qui en avait pris l'initiative, c'était les socialistes italiens, qui à ce moment-là n'étaient encore dans le coup, l'Italie n'était pas encore en guerre, et c'est eux qui avaient dit, mais il faut qu'il y ait des représentants de toutes les tendances révolutionnaires, donc nous tenons à la présence du nommé Trotsky. Lénine avait cédé, et il faut que vous sachiez que Lénine n'étant pas parvenu à obtenir une déclaration violente, une déclaration pour la guerre civile de ces socialistes français et allemands qu'il avait réunis, accepte, Lénine va accepter de signer un manifeste dont Trotsky est le rédacteur, hein, il faut savoir ça, le rédacteur du manifeste de Zimmerwald est en réalité Trotsky. C'est vous dire que Lénine commence à faire un mouvement de rapprochement. Puis voilà que le malheureux Trotsky est chassé de France parce qu'il dit trop de choses quand même, le gouvernement dit que des gens comme ça sont très dangereux, il est expulsé, il est envoyé en Espagne, soi-disant tranquillement, on vous dit, mais partez. Hein, on sait qu'en réalité la police française avait averti la police espagnole assez indignement en disant qu'il y a un espèce d'anarchiste qui va vivre en Espagne, si bien que Trotsky, qui se croyait libre en Espagne, est arrêté, pas longtemps, mais après il est encore fiché en prison. Il a négocié pour obtenir que sa nouvelle femme, hein, Natacha Sedova, et ses deux fils puissent le rejoindre à Barcelone. Les Espagnols ne veulent pas de lui, où est-ce qu'il pourrait aller? Ben, il y a des révolutionnaires russes qui sont à New York, et le voilà qui s'embarque pour New York. Là, il va travailler pendant environ 2 mois avec les révolutionnaires russes qui sont là. Il y a en particulier Alexandra Kolontai qui se trouve là. Et puis, c'est là, c'est en Amérique que lui apprendra ce que Lénine apprend lui ensuite, à savoir abdication du tsar. Pas de question pour lui, il faut qu'il se précipite. La première fois qu'il était retourné en Russie, c'était en 1905. Il était allé avant Lénine, qui lui a attendu le mois de novembre 1905 pour aller voir sur place ce qu'il voulait faire. Mais Trotsky l'avait précédé, Trotsky s'était paru sous un faux nom, bien entendu, s'était fait connaître. Il avait été d'abord vice-président, enfin membre du bureau du Soviet, puis il était devenu président du Soviet. Vous vous rappelez peut-être que le gouvernement, après avoir toléré le Soviet, avait décidé de ne plus les adhérer, on avait arrêté tout le monde, y compris Trotsky. Trotsky avait recommencé à faire de la prison à ce moment-là, en 1906, puis avait, s'était déroulé les années 1906-1912, dont je vous ai parlé à propos de Lénine, et qui s'était des années très tristes. Nous sommes maintenant en 1917. Donc sa grande pensée est de revenir le plus rapidement possible en Russie. Il y a un nouveau gouvernement, qui s'appelle le gouvernement provisoire. J'ai deux, en réalité, ce sont des capitalistes qui sont là pour faire semblant qu'ils sont libéraux alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et que les deux réclamations du principal du peuple, à savoir paix immédiate et partage des terres pour les paysans, le gouvernement provisoire n'en veut rien entendre. Il le sait, il a parfaitement compris, et Trotsky, mais il négocie pour demander qu'on l'autorise à venir en Russie. Le gouvernement provisoire n'ose pas lui refuser. Il s'embarque donc avec sa famille, c'est-à-dire ses deux garçons et sa femme. Il est obligé de toucher terre, comme on dit, à Halifax. Halifax, c'est canadien, c'est anglais. Les anglais savent que c'est un très mauvais esprit, c'est un homme très dangereux, qui peut peut-être nuire à la poursuite de la guerre. Il l'incarcère de nouveau, il perd du temps là, il s'exaspère. Enfin, il obtient que le gouvernement provisoire intervienne en sa faveur, ce qui n'a pas été très commode, parce que Miliukov, chargé des affaires étrangères, ne voulait pas voir arriver un personnage si dangereux et Trotsky. Il arrive quand même. Je vous rappelle peut-être que c'est le 16 avril 1917 que Lénine a apparu à ce qu'on appelait maintenant Petrograd, et c'est seulement le 17 ou 18, on ne sait pas bien, mai 18 mai 1917, que Trotsky arrive. Il y a déjà un autre qui s'appelle Staline. Il l'a connu, oh, à peine, vous savez. Il l'avait aperçu un jour à Vienne, où, à ce moment-là, les rapports étaient extrêmement tendus entre lui, Trotsky et Lénine. Staline était du côté de Lénine, et ils avaient échangé à peine quelques mots, plutôt un regard fort distant. Mais Trotsky n'a pas l'impression, et il a en effet une idée juste, que Staline, à ce moment-là, n'est pas un personnage de premier plan, c'est ce qui compte, c'est le personnage de Lénine. Staline est un homme d'appareil, mais un homme qui est plutôt dans la coulisse, c'est pas grave, donc pas de trop de difficultés, et cette fois, Lénine fait confiance à Trotsky. Il lui dit, nous avons été autrefois très séparés, mais je crois que maintenant nous sommes rapprochés, au point que Lénine va faire entrer ce jeune Trotsky, qui signait Trotsky depuis un certain nombre d'années, il le fait entrer au comité central. Alors voilà, tout à coup, mettons que ce soit au mois de juin, ou plus tard, peut-être au mois de juillet 1917, que Trotsky s'est rallié aux bolcheviques et qu'il est rejeté. Peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu un incident très grave en juillet, où il y avait une tentative révolutionnaire prématurée faite par les marins de Kronstadt. Kerensky, qui était chef du pouvoir, pratiquement chef du gouvernement provisoire, avait fait de la répression. Staline et Lénine avaient été obligés de se cacher, ils étaient en Finlande. Trotsky, pour des raisons qu'on ignore, n'avait pas été arrêté. Il avait demandé à être arrêté en disant, mais moi je suis du côté de l'énieur. On l'avait mis en prison, mais il y a l'incident Kornilov, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire un putsch. À ce moment-là, Kerensky libère tous ceux qui pourraient l'aider à lutter contre Kornilov. On fait sortir Trotsky de prison. Si bien que Lénine est à ce moment-là non présent. Il n'est pas là, hein, il est en Finlande. Tandis que Trotsky est présent, le personnage principal qui va faire la révolution de novembre, qu'on appelle la révolution de novembre, c'est Trotsky. Trotsky a la même idée que Lénine, on ne peut réaliser l'opération qu'avec les soldats. Comme il y a les 150 000 hommes de la garnison de Petrograd qui ne veulent pour rien au monde aller se battre, je vais m'appuyer sur ces soldats et on fera un mouvement révolutionnaire qui sera un mouvement militaire. Il est entouré de grande estime, grande admiration, c'est le premier personnage, il parle bien, les meetings qu'il fait à un endroit qui s'appelle le cirque, enfin le nouveau cirque, je crois, il parle presque tous les soirs, enfin, très grande notoriété du personnage, au point que, lorsque le premier gouvernement révolutionnaire qui s'appelle Sovnarkom se constitue, au point que Lénine lui dit, vous devez être président du Sovnarkom. Lui dit, il a raison, c'est pas moi qui vais être président, c'est vous, Lénine, tout de même, c'est vous qui depuis si longtemps avez dirigé les idées. Et il ajoute, ce qui est intéressant, je ne veux pas être au premier plan dans le Sovnarkom parce que je suis juif. Et c'est très bien qu'il y ait un antisémitisme profond en l'instant, un antisémitisme qui se manifestera même dans les rangs du Parti Social-Démocrate, qu'on appellera plus tard le Parti Communiste. Alors c'est pour une double raison, premièrement une raison de dignité, non c'est pas à moi, c'est à vous Lénine, et une raison intéressante, parce que je suis juif, je ne veux pas être au pouvoir, mais j'accepterai les affaires étrangères. Et le premier problème pour ces gens du Sovnarkom, c'est-à-dire pour les sociodémocrates qui ont pris le pouvoir, le premier problème, qui conditionne tout, parce que sans ça ils ne garderont pas le pouvoir, c'est faire la paix. À propos de Lénine, je vous ai dit que ça lui est très cruel de faire ce que les Allemands demandent. Les Allemands demandent une amputation territoriale considérable de l'ancienne Russie. Il faut qu'ils abandonnent la Pologne, qu'ils abandonnent les États baltes, qu'ils abandonnent la Finlande, qu'ils abandonnent une partie de l'Ukraine. Et un homme comme Trotsky est au moins, écoutez-moi bien, au moins aussi attaché que Lénine à l'intégrité territoriale de la Russie. Il veut bien, il souhaite que cette Russie soit révolutionnaire, mais il faut qu'elle conserve ses anciennes provinces. Pas moyen. Alors savez-vous qu'il est tellement indigné de ce qui va se passer à Brest-Litovsk qu'il va quitter les affaires étrangères pour n'avoir pas à prendre la responsabilité de signer ce traité de Brest-Litovsk. Il va mettre Tchitcherine à sa place, qui sera du reste un bon ministre des Affaires étrangères, mais il ne veut pas mettre sa signature au bas d'un traité qu'il trouve déshonorant et horriblement cruel pour son pays, la Russie. Et il va se mettre à la tête de cette armée rouge qu'il a d'abord créée, vous savez, hypothétiquement, une armée de volontaires, et il fera une confidence de lui plus tard où il dira « Notre pauvre armée rouge, dans les trois premiers mois, ressemblait à l'armée de la Commune ». Aujourd'hui, on ne sait pas trop, vous savez, il y a une légende autour de l'armée de la Commune, les gardes nationaux parisiens. En réalité, un homme très courageux, parce qu'il disait la vérité, il s'appelle Moussa Garay, a raconté ce que c'était que l'histoire de l'armée de la Commune. Vous savez, il y avait 300 000 gardes nationaux à Paris, mais ils n'avaient pas plus envie que la garnison de Petrograd de se faire tuer. Si bien sur ces 300 000 gardes nationaux qui étaient soi-disant communards, il n'y en avait pas 10 000, vous entendez? Pas 10 000 pour 300 000 qui voulaient se battre. La plupart considèrent que ma première armée rouge était composée de volontaires intelligents qui n'étaient pas du tout envie de se battre, qui étaient là parce que leur ravitaillement était difficile, parce qu'au moins à la caserne ils avaient de quoi bouffer, ils étaient logés, mais ce n'était pas sérieux. Alors il faut en revenir à la conscription, justement en juillet 1918. Les bolcheviks avaient promis qu'il n'y aurait plus de conscription, il n'y aurait plus d'armée permanente. Mais la situation de la Russie est telle qu'il faut une armée permanente, alors on va obliger les gens de 18 ans à 60 ans à être mobilisés, à être mobilisables. Et c'est lui qui va être le responsable de l'armée rouge. Et un homme qui sait conduire, hein, qui sait diriger les gens. Il y a la fameuse légende, quand je dis légende, c'est entre guillemets, parce que c'est vrai, de son train blindé. Il avait organisé un train blindé avec des canons, avec même une imprimerie portative qui était là, avec des gens qui étaient tous en blouson de cuir noir, et ce train blindé circulait à travers toute la Russie pour se porter à tous les endroits dangereux. Il va réaliser des études de miracles, parce qu'il y a devant Yudenich, par exemple, qui menace Petrograd en septembre 1917, le train blindé arrive, et la population de Petrograd est effrayée, Lénine lui-même dit, il faut peut-être évacuer Petrograd, et c'est possible, il n'y aura pas question, vous allez voir avec mes gens, on va y arriver. En fait, il faut enlever son chapeau, en fait, il est certainement l'homme qui a conduit l'armée rouge à la victoire. Aidé par le fait qu'effectivement, il a recouru à des officiers de la Russie. Il le savait. Comment voulez-vous qu'une armée énorme, bientôt il y aura 3 millions d'hommes, sans cadre, puisse être une armée efficace? Où trouver des cadres? Eh bien, il va offrir à d'anciens officiers de carrière, qui sont dans les officiers autocrates, d'entrer. Ils acceptent. J'accepte pourquoi? Ben, ils acceptent souvent parce qu'ils ont peur d'être persécutés, ils n'acceptent pas. Parce qu'ils ne pourront plus gagner leur vie. Parce que beaucoup sont mariés. Alors, ces anciens tsaristes vont être les cadres de l'armée rouge, l'armée révolutionnaire. Et pour aussi leur faire confiance, je vous assure qu'il met à côté d'eux des commissaires politiques pour bien les surveiller, ayant peur que ces gens fassent des trahisons, seulement il va pour la première fois, et là c'est important, se heurter à Staline. J'ai déjà dit que Staline est un personnage effacé, c'est vrai. Au point que, lorsque le fameux John Reed écrira les 10 jours qui ont changé le monde, le nom de Staline n'y figure pas. Vous savez, c'est un écrivain américain, John Reed, qui a raconté comme personne ne l'a raconté, il était là sur place. Ce qu'avait été la résolution dite d'octobre et qui s'est déroulée en fait les 6 et 7 novembre, le nom de Staline ne figure pas dans ce livre, parce que Staline est un personnage de second temps. Mais, voilà les premières difficultés, et Dieu sait s'ils sont grandes, qui vont éclater entre Staline et Trotsky, le chef de l'armée rouge. Staline est un homme qui est disponible pour diverses choses, qui est très dévoué à Lénine, et il y avait un problème de ravitaillement très grave à Tsaritsyn. Tsaritsyn, c'est un nœud ferroviaire, et le ravitaillement du sud, de l'Ukraine, quoi, et du bassin du Don, et de la région acadienne, passait par Tsaritsyn pour arriver à Moscou et à Petrograd. Il fallait donc tenir à tout prix Tsaritsyn, et Tsaritsyn était menacé par les Blancs. Alors, il a accepté, Staline a obtenu, d'avoir non seulement un droit de surveillance sur les questions de ravitaillement, mais aussi un droit de surveillance militaire. Et poussé par un certain nombre de gens, il y avait Boudieni, il y avait Voroshilov, on appellera ça la révolte des sous-officiers, il y avait des gens qui disaient autour de lui, ce même lui, que Trotsky nous est imposé d'obéir à d'anciens officiers tsaristes. Trotsky allait bon dire, mais j'ai fait confiance à ces gens-là, et vous allez voir si vous ne les avez pas, on les battus. Et Staline s'oppose, même avec une violence inattendue, il dit, il ne faut pas tenir compte des ordres du camarade Trotsky, ne pas tenir compte des ordres du camarade Trotsky. Trotsky prend ça très mal, va trouver Lénine et dit, je demande le rappel de Staline. On obéit, Staline est rappelé, mais vous imaginez qu'il y a la tension étrange entre Staline et Trotsky. Le pauvre petit père Lénine va faire tout ce qu'il peut pour les réconcilier, au point que c'est en décembre 1920, je crois, à la fin de la guerre, Lénine fera donner l'ordre du drapeau rouge, qui est la plus grande décoration, en même temps, à Staline et à Trotsky, parce qu'il sait que les rapports entre eux sont prétendus et qu'il veut les réconcilier. Mais alors là, devront se passer des choses graves, nous sommes à la fin de 1920 et en 1921, des drames se produiront, en particulier du côté de la classe prolétarienne. Lénine n'a pas caché que cette classe prolétarienne, au nom de laquelle on a fait la révolution, et à qui on avait soi-disant donné la dictature, c'est elle qui a payé le prix le plus lourd de la révolution. Les ouvriers de 1921 à Moscou et ailleurs sont moins payés qu'ils étaient en 1913 et sont dans un état de l'insurrection. Si bien qu'il y a Kronstadt. À la fin de sa vie, Trotsky n'aimera pas qu'on lui parle de Kronstadt, car il a une responsabilité directe. Kronstadt, c'est une révolte gauchiste, hein. Pas du tout une révolte de droite, comme on le dit. Ce sont les ouvriers, ce sont les paysans, puisque les marins étaient des fils de paysans, qui se révoltent en disant, mais nous sommes dominés par un petit clan qui s'appelle les bolcheviques, nous sommes révolutionnaires, mais nous ne voulons pas obéir à un appareil qui nous est étranger. Je comprends très bien que c'était terrible, un variant terrible pour le gouvernement soviétique, d'avoir une insurrection de gauche. Alors c'est Trotsky qui va lui-même, le 5 mars 1921, envoyer un ultimatum à cette garnison. Il y avait à la fois les civils, qui les ouvriers qui travaillaient à l'arsenal, puis il y avait des marins. Si vous ne cédez pas, si vous n'obéissez pas au commandement qu'on va vous donner, on tirera. Et que c'est sur la Syrie. Et les représailles sont affreux. On n'aime pas en parler aujourd'hui, et en Russie, c'est un sujet presque tabou, les représailles après les Kronstadt, ça a été affreux. Les portraits de Lénine avaient été maintenus à Kronstadt, mais les portraits de Trotsky seront déchirés. Trotsky, qui avait une très grande notoriété en 1920, qui était le vainqueur, le chef de l'armée rouge, devient maintenant quelqu'un du côté de la classe ouvrière, c'est un homme menaçant. En plus, il aurait voulu appliquer ce qu'il appelle lui-même la militarisation de la classe ouvrière. Il dit, la guerre est finie, j'ai obtenu de grands succès militairement en établissant une discipline rigoureuse et même quelquefois féroce dans l'armée, eh bien je demande que les ouvriers soient mobilisés comme des soldats, que le droit de grève soit immédiatement puni, et puni peut-être même de mort, je veux la militarisation du travail. Vous imaginez bien que du côté de la classe ouvrière, on n'aime pas beaucoup un homme comme ça. Et il y a un groupe d'opposition qui s'appelle l'opposition ouvrière. Vous avez une femme comme Alexandra Kollontai, qui avait connu aux États-Unis, je vous l'ai dit, et vraiment, Alexandra dit, c'est un homme assez terrible, enfin on ne peut pas faire confiance à un homme pareil, parce qu'il ne nous aide pas.
lorsque
Lénine va me faire la marche arrière de ce qu'on appelle la NEP, NEP, Nouvelle Politique Économique, la NEP. Bon, c'est un recul, c'est un recul stratégique. On donne quelques avantages aux paysans et même un certain petit capitalisme, un rétablissement, vous le savez peut-être, de l'héritage. Mais la condition, c'est que la discipline dans le parti soit intraitable et que ce petit groupement de l'opposition ouvrière qui réclame au bénéfice de Roland Barrière se taise. Il faut que vous sachiez, à cause de la suite, que Trotsky est un des plus intraitables à ce sujet. On doit persécuter, on doit poursuivre, on doit museler toute opposition. Une opposition ouvrière est la pire opposition qui soit acceptable. Pas possible. Ça arrive en 1922, à la fin de l'année 1922, et si vous avez, si vous connaissez ce que je vous ai dit sur Lénine, je vous ai indiqué que Lénine est extrêmement triste de la réalité révolutionnaire, ce n'est pas du tout ça qu'il aurait voulu, et en particulier à la fin de l'année 22, Lénine est extrêmement inquiet d'un personnage qui lui semble dangereux, et dans l'ascension duquel il a participé, je veux dire, Staline. Staline était un homme difficile, dévoué certainement intelligent aussi, qui était assez orgueilleux, et Staline est de qu'il est de son côté, et c'était Lénine lui-même qui avait, en avril 1922, souhaité que ce Staline devint secrétaire général du parti. Lorsqu'il l'avait nommé secrétaire général du parti, c'était, si je puis dire, une formule administrative. C'est quelqu'un qui n'avait pas de responsabilité politique, mais qui devait simplement contrôler le fonctionnement de ce parti et qu'il n'y entre que des gens d'une destinée. Mais voilà qu'au cours de l'année 1922, entre avril et décembre 1922, Lénine commence à regarder la politique de Staline qui trouve très dangereuse. Staline, c'est un géorgien, il faut bien vous rendre compte de ça, un géorgien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un véritable slave, qui n'est pas un grand russe, qui n'est pas un homme qui vient d'un pays de conquête. Ce géorgien, Staline, est le plus grand russe qui soit. Si vous me permettez une comparaison qui est presque excessive, on pourrait dire que c'est un algérien qui est devenu Algérie française 100%, ce qui est un peu choquant. Alors, peut-être, savez-vous, qu'en 1918, on avait, le pouvoir central avait admis l'indépendance à la Géorgie. On avait même échangé les ambassadeurs. La Géorgie était un pays indépendant qui vivait à côté de la Russie. Et en février 1921, Staline, qui s'occupait des nationalités, il avait le portefeuille des nationalités, organise un coup de force, l'armée rouge entre en Géorgie, détruit l'indépendance de la Géorgie, et ça devient de nouveau une colonie. Lénine se laisse faire, il dit, après tout, peut-être que c'est mieux comme ça, mais au moins, les traités bien ces gens de la Géorgie. Or, il s'aperçoit que Staline, à l'égard de ses propres compatriotes, peut-être parce qu'il les connaît et qu'il se méfie, c'est une politique intolérable, même une politique de brutalité à l'égard de communistes qui sont là-bas géorgiens, mais qui voudraient tout de même une certaine autonomie de leur pays. Alors ça ennuie beaucoup Lénine, qui en parle à Trotsky, et qui lui dit, écoutez, je suis obligé de dire que Staline est impossible de voler de la Géorgie, je suis malade, moi-même, ce matin, en décembre 1922, je compte sur vous, Trotsky, hein, pour vous opposer à la politique de Staline. Et il y a une note tellement célèbre, vous le connaissez bien, une note qu'il avait laissée, Lénine, qui avait remis à sa femme, Kropskaya, dans laquelle il y avait, je conseille aux camarades du comité central de déplacer Staline et de lui retirer un pouvoir excessif qu'on lui a, hélas, accordé. Note comme ça, hein, un texte Lénine disant, je demande, je conseille qu'on démette Staline de ses fonctions. Alors là, regardez bien ce qui va se passer, et c'est très intéressant à voir. Comment ça se fait que, très appuyé comme il l'est par Lénine, Trotsky ne va pas faire ce que Lénine lui demandait? Nous sommes dans la 1923, il y a le congrès, je ne me rappelle plus quel est le numéro du congrès, je crois que c'est le 12e congrès en 1923. Lénine est malade, il est maintenant, vous savez, presque atténué, enfin, il n'existe plus, il est intelligent, il est lucide, mais il ne peut plus parler. Lénine lui a donné une fonction, lui a donné une mission d'intervenir au congrès de 1923 contre Staline, et d'essayer d'écarter Staline. Trotsky n'en fait rien. Rien. Au point même qu'il a écrit un petit opuscule pour défendre la politique de Staline en Géorgie. C'est à peine croyable. J'essaie de comprendre. Je me dis, peut-être Trotsky sait-il qu'il est entouré de jalousie, et c'est vrai. Le vieux bolchevique, qui était bolchevique avant lui, certainement comme Kalinov et comme Zinoviev, le guette. En disant ça, c'est un nouveau venu dans le parti, il a un immense prestige militaire, il va peut-être vouloir faire du bonapartisme, prendre toutes les places, et c'est précisément, je pense, afin de ne pas apparaître comme un ambitieux, de ne pas apparaître comme le successeur de Lénine, qui va se taire, qui ne va pas faire cette politique anti-Staline que lui avait demandé de faire Lénine. Il ne le fait pas. Cependant, toujours Lénine étant vivant, à la fin de l'année 1823, vous vous rappelez que Lénine ne va mourir que le 21 janvier 1824, on voit Trotsky qui brusquement fait une offensive, pas dirigée contre Staline, mais une offensive, il lance un petit objectif, il s'appelle Cours Nouveau, en disant l'appareil est sclérosé, il y a des gens qui sont trop vieux là-dedans, pourtant c'est lui quand il est moins jeune, hein. Il faut modifier le il faut modifier l'appareil, il faut un renouvellement. Dans le fond de sa thèse, il y a probablement l'idée de Staline, il faut écarter Staline, mais il ne le dit pas. Il dit simplement qu'il faut un cours nouveau. Et le voilà qui va se rapprocher, curieusement, de ceux qu'il avait si violemment combattu en 1921, c'est-à-dire les gens de la position ouvrière. Des choses très curieuses, après avoir fait cette offensive, qui braque contre lui des anciens communistes, et qui disent, oui, en fait, c'est un nouveau venu, hein, il n'y a pas longtemps qu'il est du parti, c'est en juin ou juillet 1917, et nous sommes bolcheviques depuis 1903. Bien, il ne va pas oser. Et après avoir foncé, il se tait. Je dois dire, il faut le savoir, hein, qu'il est malade, c'est vrai. C'est un homme qui aime beaucoup chasser, il a les chasses et les canards dans les environs de Moscou, il avait attrapé un virus, je ne sais pas quoi, qui toute sa vie lui donnera des assez de fièvre inattendues, et il est obligé de s'arrêter, comme c'est un personnage considérable, on va l'envoyer dans une cure au bord de la mer Noire, sous les palmiers, il va passer la plusieurs mois à se rétablir, mais il ne fait plus rien. De ce coup, il aurait été capable de faire je ne sais quelle négociation auprès de ses camarades du comité central, et dire, mais rappelez-vous, Staline, Père Lénine, enfin il faut se débarrasser de Staline, il ne bouge pas. Nous voilà maintenant dans le 1924, et Lénine est mort. Lénine est mort le 21 janvier 1924. 13e congrès. Et Nadia est là, au congrès. Et Nadia possède le texte de son mari, disant il faut se débarrasser du camarade Staline. Alors on pourrait croire que Trotsky, à ce moment-là, accueilli par Nadia, qu'il aime bien, et ayant sous les yeux ce document, va au 13e congrès foncer, en disant si nous voulons être fidèles à la pensée de Lénine, il faut les débarrasser du camarade Staline, puisque Lénine lui-même a demandé quelque chose dans cet égard. Il ne fait rien. C'est la deuxième fois. Je ne sais pas. La première fois, je l'ai dit, c'est pour ne pas apparaître comme un ambitieux. On peut dire aussi que peut-être parce qu'il est juif, qu'il ne veut pas se mettre en avant, je n'en sais rien. Mais maintenant, c'est très grave. Lénine est mort, le testament est là. Et Trotsky va accepter ce que demande la majorité du comité central. Écoutez, on n'en parlera pas. Hein. On en parlera du testament, à quelqu'un, on appelle ça le testament d'Élie. On en parlera à quelqu'un des camarades, mais on ne le lira pas au Congrès général. Hein. Il ne faut pas que les soviets, ensemble, les soviets, les délégués des soviets, entendent ces phrases très dramatiques que Lénine a prononcées contre quelqu'un. Il était peut-être à ce moment-là un peu trop sévère pour Staline. Silence, mutisme, abstention complète de Trotsky qui l'essaie. J'ai bien une idée derrière la tête. Je me demande s'il se dit après tous ces grotesques. Laissons-le, ce Staline, parce que c'est un homme sans envergure. Toutes les phrases qu'il parlera de Staline dans son œuvre, dans son bulletin dont je vous parlerai dans ma vie, c'est avec un extraordinaire mépris. Il se dit, c'est un tout petit personnage. Il est dit, provincial, je sais pas ce qu'il veut dire par là, provincial jusqu'au moelle, disait-il. Un homme qui a aucune intelligence remarquable. C'est quel, ce personnage quelconque. Bon. Laissons-le à ce secrétariat, mais il ne se rend pas compte qu'au secrétariat, il a entre les mains un pouvoir extraordinaire, ce Staline. Pourquoi? Parce que c'est l'appareil qu'il tient. Il va pouvoir nommer au secrétariat tous les gens qui sont à clientèle. Il va se constituer une immense armée de gens qui lui doivent leur situation et sur lesquels il pourra s'appuyer pour se maintenir. Alors je me demande dans quelle mesure Trotsky est un homme qui est aveuglé par l'estime qu'il se porte, et il se porte une très grande estime, et par le mépris qu'il avait à l'égard de Staline, en disant de toute manière, ça ne durera pas, parce que c'est un homme très quelconque. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'année 1924, c'est au mois de mai qu'avait eu lieu le 13e congrès, qui aurait été si important, puisque Nadia Kopskaya aurait voulu qu'on révélât à tout le monde les noces de son mari, brièvement. Et voilà que, comme l'année précédente, vous avez peut-être, à l'automne 1923, tout à coup, Trotsky avait fait une offensive avec l'idée du cours nouveau, où il avait été juste à dire le parti doit savoir se subordonner son appareil, puis il n'avait plus rien fait, que ça sentait peut-être. De même, en automne, enfin octobre, je crois, 1924, voilà qu'il fonce, comme il avait fait l'année précédente. Et il fonce arbitrairement, ça s'appelle Leçon d'octobre. Il avait réuni dans un petit volume la plupart de ses discours, il fait une préface, et dans cette préface, il attaque. Pas Staline, mais il attaque Zinoviev et Kamenev qui lui paraissent autrement dangereux. Zinoviev et Kamenev sont des gens de premier plan, Staline lui paraît toujours un homme de second plan, alors il va révéler là quelque chose qu'on cachait dans le parti, à savoir que quelques jours avant l'offensive des 6 et 7 novembre, c'est ce qui se passait soi-disant en octobre à ce moment-là, Kamenev et Zinoviev avaient, mon Dieu, oui, trahi. Puisque dans un journal d'opposition qui s'appelle Novayagisme, c'est à la vie nouvelle je crois, Kamenev et Zinoviev avaient carrément dit au gouvernement provisoire, c'est encore là, les bolcheviks vont tenter un coup. C'est assez affreux. On avait même pensé à ce moment-là une texture, puisqu'il avait trahi, on en parlait tout dans le parti. Voilà, tout à coup, à l'automne 1924, Trotsky se met à dire, vous savez, un Kamenev et Zinoviev, ils ont fait quelque chose en octobre qui était vraiment moche. Soulèvement contre lui, fureur. Et alors on voit Kamenev, Zinoviev, il est appuyé par Staline, dit, mais c'est épouvantable, ça fait le camarade Trotsky. Il le trahit, il trahit même les principes du léninisme. Parce que figurez-vous que dès que Lénine avait disparu, c'est-à-dire au mois de janvier 1924, on avait vu Kamenev, Zinoviev, Staline se porter, se poser comme les continuateurs spirituels de Lénine, ce qui n'était pas tout à fait exact. Et à ce moment-là, comme Trotsky fait quelque chose qui les gêne, il ne faut pas dire, mais il n'est pas léniniste, c'est quelqu'un qui trahit la pensée de Lénine, ce qui était monstrueux. Et pour la seconde fois, comme l'année précédente, après avoir lancé une offensive, le voilà Trotsky qui fait en effet qui fait de nouveau une marche arrière. Je me rappelle avoir lu une lettre assez pathétique de Yossé. Yossé est un bolchevique très important qui va se suicider en novembre 1927, nous y viendrons. Et Yossé va dire ceci dans cette lettre mortuaire, cette lettre testamentaire. Il lui dit à Trotsky, j'ai peur qu'il vous ait manqué l'inflexibilité de Lénine. Vous avez trop souvent renoncé à votre rectitude, et c'est vrai. Il a une attitude incroyablement incertaine. Alors, qui a fait, par la seconde fois, une offensive, il a peur, on a dit ce qu'il fait, le voilà qui fait une marche arrière, il repart pour Soukoum, il se les amène à Berlin pour se faire enlever les amygdales, il ne va reparaître qu'en avril, je crois, ou en mars 1925, et entre-temps, on a commencé une offensive sérieuse contre lui. Il était toujours en principe le chef de l'armée rouge. Eh bien, on va lui demander de renoncer à son titre. On va lui dire, vous savez, la plupart des commissaires politiques trouvent que vous avez une politique extrêmement dangereuse, trop dure, et le voilà qui est privé de son portefeuille, il n'est plus du Sovnarkom. C'est la première fois qu'il y a déjà une marche, un retrait, c'est le déclin de cet homme qui se produit. Il ne se venge pas. Il pourrait peut-être, mais je ne sais pas, il pourrait dire, non, ça, je suis injustement attaqué. Il savait tout ce qu'il y a à faire, c'est tout à fait déconcertant. Il y avait un Américain, je crois, qui s'appelait Eastman. Eastman avait déjà publié un livre intéressant qui s'appelait La Jeunesse de Trotsky. Et Eastman venait de publier un nouveau livre aux États-Unis ou à Londres, je ne me rappelle pas, qui s'appelait Depuis que Lénine est mort. Since Lenin died, je crois que je dis. Hein. Et dans ce texte, Eastman parlait de ce dont il ne fallait pas parler, à savoir des notes testamentaires de Lénine. Et Eastman révélait que Lénine avait demandé que Staline soit écarté du secrétariat. Scandale. Alors figurez-vous que le comité central, qui a déjà mis à la porte Trotsky, puisqu'il n'est plus chef de l'armée rouge, lui demande, et il va le faire, lui demande de publier dans une revue mensuelle qui s'appelait Le Bolchevique, à la date du 1er septembre 1925, vous suivez, un 1er septembre 25, un article de Trotsky contre Eastman. Pourquoi on lui a demandé ça? Parce qu'on soupçonne Eastman d'être crédit avec lui, puisqu'il a fait un livre sur la jeunesse de Trotsky, et qu'autour de Staline, de Kamenev et de Zinoviev, on s'est dit, si Eastman a publié l'histoire, c'est probablement Trotsky qui lui a fourni cette documentation. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Alors le voilà, notre Trotsky, qui va se mettre à attaquer Eastman, en disant qu'il a calomnié, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais non, on n'a pas caché ce document. Ce qu'il avait de plus fort, de plus puissant entre les mains, contre Staline, à savoir la note explicite de Lénine disant qu'il faut l'écarter, non seulement il ne s'en sert pas, mais il déclare que c'est une calomnie de prétendre qu'on avait voulu faire ça contre Staline. Je n'y comprends rien, je lui signale seulement les choses. Alors à partir du 1925, en réalité, vous savez, il est fichu. Hein. Alors on va voir peu à peu qu'on va le chasser de toutes les choses importantes, il n'est plus membre du Sovnarkom. En 1926, on va le chasser du bureau politique, et à la fin de l'année 1927, on va carrément le chasser de quoi? Du parti! Il va être mis à la porte du parti. Il avait tenté de faire un manifeste, ça s'appelait une plateforme, ça se dit encore aujourd'hui. Un manifeste avec chose curieuse et qui fait un peu sourire amèrement, avec les anciens adversaires de l'opposition ouvrière. Le voilà qui maintenant va faire, je ne dis pas du gauchisme, attention, je m'expliquerai là-dessus, mais il avait fait des protestations sur la condition ouvrière en disant vraiment ils sont trop maltraités, il faut songer au logement, il faut songer à ravitaillement meilleur. Bon, plateforme. Cette plateforme est interdite par le comité central en disant ça c'est très révolutionnaire, c'est un danger, il ne le faut pas. Poussé par ses camarades plus que lui-même. Poussé par ses camarades, il décide, lui, Trotsky, de passer outre à l'interdiction que le comité central a déclaré, interdiction d'imprimer la plateforme. Il va le faire, il va tenter d'imprimer. Pas exactement d'imprimer, ça sera pareil qu'il remet le cité. Et là, le GPU, qui a suivi la HK, lui tente un piège abominable dans lequel il va tomber. Il cherchait quelqu'un pour remis-occuper ces manifestes qu'on ne peut pas imprimer. Alors on va lui glisser, c'est ça qui a fait ça. On va lui glisser quelqu'un qui se présente comme un ami, un phénomène qui s'est en commun, et qui est en réalité un agent de la CK, et qui autrefois a été un agent blanc, un russe blanc, qui est maintenant rallié. Alors une fois que le manifeste commence à s'imprimer, et les communistes au pouvoir, enfin, l'appareil va dire, c'est pas ce qu'il fait, Trotsky. Et il a dans, parmi ses collaborateurs un ancien membre des gardes blancs. Il travaille avec ceux qui ruinent le gouvernement soviétique. C'était le monde soviétique, il ne savait pas le pauvre Trotsky, il avait fait ça. Alors le voilà qui est chassé du parti, vous avez chassé du parti. Il va tenter encore une certaine petite manifestation misérable pour le 10e anniversaire de la révolution d'octobre, c'est-à-dire le 7 novembre 1927. 7 novembre 27, hein, où il va tenter une petite manifestation, une contre-manifestation, où il y a 100 ou 200, pas plus, hein, qui brandit des pancartes en disant contre les netmans, les netmans, ceux qui ont profité de la nouvelle politique, contre les coulacs, qui sont une centaine, c'est presque rien. Hein. Même on va tirer un coup de feu contre sa voiture. Mais on prétendra que c'est un homme extrêmement dangereux parce qu'il dit qu'il autrefois a condamné les tendances, est en train de soutenir une tendance qui est extrêmement grave pour l'unité du parti, c'est-à-dire qu'il a mis à la porte et que même en janvier 1928, on va l'exiler. Attention, il faut bien regarder les choses telles qu'elles furent. Hein. Il n'est pas jeté n'importe où. On va l'envoyer très loin, c'est vrai. À Alma-Ata, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Alma-Ata, c'est pas loin du Kurdistan, c'est pas loin de la frontière chinoise, c'est quelque chose à 3000 ou 3500 km de Moscou. Mais avec beaucoup d'égards, ce que l'on cachera, beaucoup d'égards. Hein. On lui a permis d'apporter toutes ses archives. Là-bas, il sera logé d'abord au consulat. Puis comme il n'est pas content d'être au consulat, on lui donnera une cachard, une villa particulière. Et on va lui laisser une liberté d'action totale. Dans l'Asie, il se vantera aussi d'avoir, en quelques 6 mois de présence à Alma-Ata, envoyé 800 lettres et 500 télégrammes, vous m'entendez bien, hein, c'est lui qui le dit, 800 lettres et 500 télégrammes qu'il envoie à ses collaborateurs, enfin, aux quelques personnes qu'il avait dans le parti. Quelques personnes. Le parti, c'est 400 000 hommes. Sur les 400 000 membres du parti, il avait obtenu environ 4 à 5 000 signatures, pas plus, vous entendez bien, 4 à 5 000 signatures, pas plus, sur les 350 000 hommes du parti, c'est presque rien. Enfin, il essaye de les entretenir, il essaye et on tolère qu'il écrive des lettres. Et puis en octobre 1929, il a assez pas lui fait savoir, écoutez, non, vous allez un peu fort, alors nous vous demandons de cesser d'avoir cette urgence politique. Il répond par une extraordinaire violence, je vous assure, il parlait haut. Au point que, figurez-vous, c'est un détaillé qui a son truc. Quand il est arrivé à Alma-Ata, il a dit, on lui a laissé mon petit chien, ça dit Mishka, je crois. Je demande qu'on envoie par train spécial mon petit chien, on lui a envoyé son train spécial. Et tout de même, on lui dit, écoutez, c'est pas possible, enfin, vous allez vous faire expulser si vous continuez. Alors il répond avec une extrême violence en disant, si vous demandez des honorants, je continuerai. Alors forcément, ça peut plus aller. Si bien cette fois, on va l'expulser du territoire. Nous sommes juste un an plus tard, c'est en janvier 1929, on lui dit, vous allez être envoyé hors du territoire russe sans lui dire où. Puis il apprend en cours de route que c'est Constantinople, qu'on veut l'envoyer en Turquie. Alors il fait une scène en disant, on l'envoie au comité central, il lui dit, ah, je sais ce que vous voulez faire, vous voulez m'envoyer en Turquie. Parce qu'en Turquie, il y avait une quantité de survivants de l'armée Wrangel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous savez, Wrangel avait pris la suite de Denikin. Wrangel, en 1920, avait essayé de révolter la Crimée. Il avait même obtenu du gouvernement français, qui était le seul, vous entendez, c'était l'immigrant qui était au pouvoir, que le gouvernement Wrangel soit reconnu par la France comme un gouvernement régulier. Puis Jean Wrangel avait été éparpillé, mais il y en avait beaucoup d'anciens Wrangeliens qui étaient à Constantinople. Alors Trotsky se persuade, et il se trompe, qu'on veut l'envoyer à Constantinople pour le mettre sous la patte des assassins wrangeliens, et que si Staline l'a envoyé là-bas, c'est parce qu'on espère qu'il sera assassiné. Ce n'est pas vrai. Staline, c'est parce que je veux défendre Staline, mais je vais regarder les choses. Staline lui fait remettre 2 500 $, hein, c'est quand même pas mal, 2 500 $ pour son établissement à Constantinople. C'est au consulat général de Russie de Constantinople qu'il est accueilli. Et c'est le consulat général qui va lui dire, non, si vous préférez vivre ailleurs, on va vous trouver une villa. Il va s'établir dans cette ville qui s'appelle Primikipo, une très belle villa, où il essaiera de gagner sa vie, il a tout de même les 2 500 $ de départ, et il va écrire ma vie, signant des contrats, peut-être imprudents, avec la presse américaine, qui lui rapporteront pas mal de dollars, et il va vivre là-bas. C'est à partir de juillet 1929, vous suivez, hein, à juillet 1929, et jusqu'à sa mort, il va intervenir, comme vous le savez, en août 1940, que Trotsky va publier assez régulièrement, enfin irrégulièrement, c'est comme il le peut, un bulletin de l'opposition russe. C'est un texte qu'il faut lire de très près. Je l'ai fait, aujourd'hui ce n'est pas introuvable, on se trouve très bien, mais il faut lire ça numéro par numéro. Et on y voit les choses d'un extrême intérêt. En 1932, vous voyez que Staline a déclaré ses patients, c'est en 1932 seulement, alors que l'attaque a commencé en juillet 29, qu'on va lui retirer la nationalité russe. Dès un certain jour de janvier, je crois, 1932, il n'est plus rien, il est apatride. Il gagne sa vie avec des collaborations surtout anglo-saxonnes. Et alors dans ce bulletin, il fait une chose remarquable, qui est entièrement à son honneur, c'est lui qui nous a cessé de dire, depuis 1933 en particulier, avec Hitler au pouvoir en Allemagne, c'est une folie de faire ce qu'avait fait Staline. Qu'est-ce qu'il avait donc fait Staline? Staline avait dit à ses amis, enfin à ses communistes allemands, le véritable danger pour vous, c'est la République de Weimar. Bon, il y a des gens qui s'appellent national-socialistes et qui veulent renverser leur République, votez en même temps qu'eux. Il faut renverser les sociaux-démocrates, et les sociaux-démocrates sont la pire des choses. Parce qu'ils disaient, mais c'est une folie. Et quand vous avez les nazis, sont beaucoup plus dangereux pour notre pays, pour le soviétisme, que les sociaux-démocrates. Les sociaux-démocrates sont des gens veulent, sont entendus, mais en fait, ils veulent pas nous attaquer. Enfin, il y a qu'à lire le bouquin d'un monsieur Hitler qui, en 1924, a dit, si je suis au pouvoir, je vais jeter sur la Russie parce que l'Ukraine fait partie du Lebensraum, enfin, d'espace vital. Alors, il avait dit, et c'est lui qui a raison, Trotsky, il dit, mais attention, le vrai danger, c'est le nazisme. Et si vous laissez venir Hitler au pouvoir, vous allez voir, il vous attaquera un jour ou l'autre. Ça, c'est tout à fait à la gloire, en fait, si vous voulez, à l'honneur de Trotsky, parce qu'il a eu les yeux ouverts. C'est vrai aussi qu'il a une grande intelligence politique et qui dit, vers les années 29 ou 30, attention, Européens, vous croyez que vous allez être les maîtres de vos destins. Je vous annonce que ce sont les États-Unis, que ce sont les États-Unis qui vont finir par gouverner l'Europe, hein, par personne interposée, mais la très grande puissance menaçante, la grande puissance capitaliste, c'est les États-Unis. Voilà les choses que Trotsky va lire et c'est à son actif. Hein. D'autre part, c'est vrai qu'il va se tromper. Quand il commencera à connaître le mouvement révolutionnaire, le mouvement communiste en Chine, avec Mao et sa longue marche, il va dire ça, c'est raté d'avance. Parce qu'on ne peut rien faire avec la paysannerie. Or, Mao s'appuie sur les paysans. Et bien ça, c'est une erreur, ça loupera toujours. Ben non, comme vous avez vu, ça n'a pas loupé. Tout d'abord, il y a une espèce d'incohérence. Une incohérence qui vient chez lui du fait qu'il a été, qu'il déteste tellement, et on comprend, qu'il déteste tellement Staline. Alors, en 1933, excusez-moi bien, en 1933, il avait dit, il faudrait que nous, communistes, nous fassions une alliance militaire avec l'Occident, c'est-à-dire avec la France et l'Angleterre, parce que la France et l'Angleterre est menacée comme nous par Hitler. Parce que c'est déjà une alliance purement militaire, mais l'alliance défensive ou dissuasive contre Hitler est intéressante. Bon, voilà ce qui est fait. En 35, en mai 35, Staline accepte. Staline va recevoir un Laval qui le réciproque, et Laval lui présente un projet de coopération militaire franco-russe. À ce moment-là, parce que Staline a pris cette position, on voit notre ami Trotsky renverser sa position et condamner ce qu'il avait demandé lui-même 3 ans auparavant, à savoir une entente militaire entre l'Occident d'une part et la Russie d'autre part. Je suis également assez navré de ce comportement à l'égard des révolutionnaires. Et Samuel, il avait été lié avec Andrés Nin, et Nin c'est le POUM, parti voyez d'unité marxiste. C'était des gens qui étaient évidemment très marxistes, mais qui, au début, avaient été liés avec lui, Nin était lié avec lui, il le connaissait. Puis, Nin avait pris ses distances à l'égard du trotskisme, comme on disait déjà. Alors voilà, Trotsky qui passe contre Nin, et vous savez ce qui va arriver à Nin. Après, les communistes vont persécuter le Nin, et vraisemblablement Nin va être étranglé ou asphyxié dans une des prisons secrètes du Parti communiste. Eh bien, il est pénible de penser qu'un homme comme Trotsky est contre Nin, qui représente une grande partie de ses idées, mais qui a eu le tort de ne pas être fidèlement Trotsky. Donc, il y a des côtés déplaisants. Et maintenant, ce que j'ai à vous dire, et c'est probablement ce à quoi j'attache le plus d'importance. J'entends beaucoup dire autour de moi, et ça c'est sali, vous savez, que ceux qui se disent trotskistes aujourd'hui, disent trotskistes représentent l'espérance de la liberté. Tout de même, un homme qui a lutté contre Staline, qui n'était pas pour le parti si brutal, et il représente aujourd'hui l'espérance révolutionnaire qui peut passer l'homme de la liberté. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas vrai. Et j'ai été stupéfait, étudiant, comme je l'ai fait minutieusement, les bulletins de Trotsky, pour découvrir ce que je veux dire maintenant, et qui est un de ses derniers bulletins. Vous savez qu'il va être assassiné en août, et c'est au printemps 1940 qu'il a lancé dans ce bulletin un manifeste où il dit ceci. Je vais être clair, je vais être bref, et je vais être lent. Dans les circonstances présentes, la classe ouvrière n'a-t-elle pas le devoir d'assister les démocraties dans leur combat contre le fascisme allemand? N'oubliez pas, ça c'est écrit au printemps 40, que la guerre a éclaté depuis septembre 1939, qu'il y a d'un côté les fameuses démocraties qui sont si peu démocratiques, et qu'il y a en face le danger, le monstrueux danger qui arrive. Alors je répète la phrase. dans les circonstances présentes, la classe ouvrière n'a-t-elle pas le devoir d'assister les démocraties, même avec tous leurs défauts, dans leur combat contre le fascisme allemand? Prenez vos réactions. Réponse de Trotsky, cette idée, nous la repoussons avec indignation. Tout de même raide de penser que Trotsky, à ce moment-là, fait la politique de Staline. Vous savez bien ce qu'il avait fait Staline. Staline avait d'abord demandé aux communistes français d'être d'accord avec le gouvernement français pour accroître la défense nationale. Tout à coup, la France est battue, il y a le pacte germano-soviétique, alors à ce moment-là, les instructions qui viennent de Moscou sont ceci. Pas de difficulté avec Hitler, nous avons besoin de nous entendre avec lui provisoirement. Hitler dit qu'il veut la paix, ce serait peut-être pas si mal. Il faut que les communistes français déclarent que les véritables responsables de la guerre, c'est les banquiers juifs de Londres, c'est la cité de Londres. Cette chose qui me paraît à moi assez révoltante, Trotsky y souscrit. Trotsky est un homme qui dit, mais au fond, le pacte germano-soviétique, c'est pas si mal, voilà l'expression qu'il emploie, il n'est ni absurde ni stérile, et quand on voit la Russie soviétique attaquer la Finlande, vous vous rappelez bien, attaquer la Finlande, c'était à la fin de décembre 1939, quelle est la position de Trotsky? Absolument d'accord. Il parlera des honteuses défaites, vous entendez bien, des honteuses défaites de Staline, qui en effet, au début, dans les années romaines contre la Finlande, n'a pas obtenu de succès. Ce qui lui reproche, ce n'est pas du tout d'avoir attaqué la Finlande, c'est de se faire battre. Alors il faut que vous sachiez qu'il y a un Trotsky de la fin qui se rapproche de Staline. Alors vous allez dire, mais pourquoi Staline va-t-il le faire tuer? Ben je sais, là, je connais l'explication. C'est que depuis 1929, Trotsky, presque dans chacun de ses bulletins, dit, si la guerre éclate, et elle finira par éclater, je vous affirme, disait-il, il se trompait, que Staline tombera. Staline n'est pas capable de supporter la guerre. Et de même que le gouvernement tsariste est tombé parce que la guerre tournait mal, je crains bien que la prochaine guerre tourne mal pour la Russie, et vous verrez qu'à ce moment-là, Staline s'écroulera. Je peux vous dire, parce que j'en suis sûr, parce que je le sais, que Staline a horriblement peur de la guerre. Et c'est pour ça qu'il a fait le pacte germano-soviétique. Il sait bien qu'il finira par se faire attaquer par Hitler, mais il veut gagner du temps. Il veut gagner 2-3 ans pour que l'armée rouge qui a été, à cause de sa purge Tukhachevski de 1937, réduite en état d'infériorité, il veut se donner 2 ou 3 ans pour reconstituer une puissante armée capable de résister à l'offensive inévitable de Hitler. Bon. Eh bien, n'empêche, à ce moment-là, Staline se voit d'accord avec notre Trotsky, mais il a toujours peur de se placer à dire, savoir s'il y a la guerre, et si la guerre tourne mal, vous allez voir qu'elle a perdu son pouvoir. Or, la guerre va éclater le 22 juin 1941. Pour la stupeur de Staline, qui ne s'y attendait pas, il croyait qu'il avait jusqu'à 42 ou 43. Stupeur de Staline. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, ce Khrouchtchev l'avait dit, il n'a pas menti, que pendant quelques jours, Staline a perdu la tête. Il est invisible, vous savez, il ne parlera pas, c'est quelqu'un de Molotov qui parlera au public alors que les Russes viennent d'apprendre que l'Allemagne s'est attaquée. C'est seulement le 3 juillet que Staline aura repris le poil de la bête et s'adressera aux gens, mais pendant un certain temps, il est éperdu. Alors il s'est dit, la guerre va probablement éclater. C'est possible que cette guerre tourne mal. J'ai peur qu'à ce moment-là, si la guerre tourne mal, on se souvienne de cet homme qui était le chef de l'armée rouge, qui avait remporté de grandes victoires. Trotsky est un homme, tant qu'il est vivant, très dangereux, et en cas de guerre, et de guerre qui tomberait mal, peut-être pourrait-il revenir en Russie et le renverser. C'est à ce moment-là qu'il a donné l'ordre de le descendre. Il y a eu la première attaque d'un ami Sidéras, vous savez, qui a affirmé, moi j'y agis tout seul, c'est un communiste qui a essayé de tuer Trotsky, bon, ça avait loupé, mais ça ne jouera pas avec Mercader sera télévisé, tout à fait certainement, par les communistes français le reconnaissent aujourd'hui, télévisé par Staline, pour se débarrasser d'un personnage qui, en cas de guerre, peut-être pas dangereux. Comprenez-moi bien, on se trompe, et on se trompe complètement, en s'imaginant que si Trotsky avait eu le pouvoir, il aurait fait une politique libérale. C'est absolument faux. Écoutez ce qu'il dit, dans un texte de lui, hein, le prolétariat exerce la dictature par le moyen de l'État soviétique, et le parti communiste et le parti dirigeant du prolétariat, et constitue par conséquent l'État. Je suis bien convaincu que si Trotsky avait été à la place de Staline, lui n'était pas paranoïaque. Il n'aurait pas fait l'épouvantable massacre de Staline. C'est pas lui qui aurait fait disparaître tous les autres. Mais l'idée même, suivez-moi bien, l'idée de syndicat libre l'aurait épouvanté. Surtout pas. Il ne s'agit pas de ça. C'est un homme qui veut bien qu'on apporte quelques atténuations à la condition de la classe ouvrière. Mais une liberté de la classe ouvrière, mais une diminution de la puissance du parti, jamais. Parce que c'est quand nous ne trouvons pas sur Trotsky, Trotsky était quelqu'un qui restait un homme favorable à l'état policier et totalitaire. L'homme maintenant, mais j'aime bien parler de l'homme, c'est vrai. Et il n'est pas toujours attirant, hein. Vu de presse, c'est pas très drôle. Luna Tcharsky, qui était son ami, et qui en 1923 écrit un livre pittoresque et intéressant qui s'appelle Silhouette. Dessiner une silhouette de Trotsky telle qu'il l'avait vue les premières fois. Il l'avait vue en 1905, lorsque Trotsky, vous vous rappelez, était venu en Russie et qu'il était même président du Soviet. Et il dit, et c'est un homme favorable. Et il disait ceci, il était impérieux, tout hérissé de pointe, c'était un homme d'une élégance rare, il faisait l'effet d'un jeune snob qui balançait sa jambe sur son genou et d'une manière négligente, il laissait tomber quelques phrases définitives. Bon, voilà ce que dit Noël Chartier, qui n'est pas un ennemi. Je vois maintenant John Reed qui lit avec une expression sarcastique qui frisait le ricanement. J'ai connu quelqu'un en Suisse, Fabien Berdreau, qui avait été le représentant en Suisse avec quelque chose comme l'œil de Moscou, et qui racontait volontiers, je connaissais bien trop qui, dit-il, et il y avait une chose qui me frappait beaucoup, lorsqu'il était encore membre du bureau politique et du comité central. Dès qu'on sortait de la réunion, et un Verdreau y était, c'était un personnage secondaire, mais enfin, il était très important, je voyais, dit-il, Trotsky prendre la distance, il marchait le premier, tout seul, laissant les camarades derrière, comme s'il voulait marquer une immense distance qui était entre eux et lui. J'ajoute, il était extrêmement attentif à la tenue, hein. Il tenait à se bien se présenter. Un homme habile, comme Staline jouait au rustre, hein. Il avait toujours de grosses bottes, il avait des pantalons bouffants, tandis que notre ami Trotsky était très élégant, c'est lié à l'européenne, et je vois encore dans je ne sais plus quel témoignage de 1927, quelqu'un qui vient le voir dans son bureau, il avait encore un bureau pour ce qu'on appelle les concessions, il avait paraît-il une cravate rose, il avait un vêtement de sport, il portait une canne, il avait presque toujours un chapeau de feutre, enfin, c'est un homme parfaitement élégant et distingué. Ce qui irritait, je peux le comprendre, un certain nombre de gens. Pas commode, hein, pas facile. À l'égard de ses enfants même, il est très dur. Il y a des lettres effrayantes de Zina, sa fille qui va se suicider, où elle est tentée de venir, venir à Frinkipo pour vivre avec son père. Il s'entend mal avec lui pour des raisons que j'ignore. Elle écrit à sa mère des lettres désespérées en disant « Ceci ne peut plus avoir de rapport avec papa, c'est impossible. » Son malheureux fils, Léon, qui va être persécuté, qui probablement va être assassiné, c'est, il va disparaître, Léon Sedova, c'est Sedov, il va disparaître en 38 à Paris dans une édition très mystérieuse, et je crois pouvoir vous dire qu'il a été décidé aussi par Staline. Eh bien, c'est lui qui est chargé de l'impression du bulletin à Paris. Et son père lui écrit des lettres mais indignes en lui disant « Je n'en sais du fait, hein, c'est une méprise, tu te fous de moi, alors que le pauvre petit se crève. » Donc, les rapports avec cet homme étaient pas communs. Je dois vous dire aussi qu'il est très attentif aux femmes, mais je n'en veux pas, je ne veux pas faire que Nilène. Mais vous avez vu un homme comme Lénine, qui est probablement ému par Inès Armand et qui arrive à se contenir, tandis qu'il est tout à fait certain que Trotsky est très attentif au charme qu'il exerce sur les femmes. Il est vraisemblable que cette américaine qui a fait un buste de lui a été sa maîtresse, et il y a quelqu'un qu'il aime beaucoup, Van Reinerhoff, qui est un garçon qui a servi de secrétaire à Staline quand il était au Mexique, à la villa de Coyoacán, comme vous savez, dit qu'il était au plus tendre, il passait des billets secrets à Frida Kohler, qui était la maîtresse de ce peintre qui l'avait invité. C'est Diego Rivera qui avait invité Staline chez lui, dans ce admirable palais qu'il lui avait offert, et Staline était très bouleversé par la présence de cette très belle femme qui s'appelait Frida, et Van Aylenov dit, je le voyais quelquefois, qu'il lui passait dans un livre plié, dans un livre, un petit billet que Frida lisait avec attention, enfin, bon. Une autre chose, il y avait non loin de la villa de Coyoacán, il y avait une autre villa où vivait une veuve, et Van Aylenov dit, j'ai vu plusieurs fois être petit qui essayait de se présenter auprès de cette dame. Ça n'est nullement criminel, mais enfin, je veux dire qu'entre un homme comme Lénine, très dur à l'égard de lui, et un homme comme Staline, qui n'est pas très attiré par les femmes, c'est plutôt la bouffe qui l'intéresse, il y a un côté de Trotsky, peut-être, non, je ne dis pas vulnérable, et qu'il faut connaître. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur lui? Eh bien, c'est ce qui est assez important, oui. C'est tout de même quelqu'un qui n'a pas cherché à faire de l'argent. Il fallait qu'il vive quand il était à l'étranger, il a été vraiment très persécuté. N'oubliez pas que ses deux filles vont disparaître. La première va mourir parce qu'elle est tuberculeuse, la seconde va se suicider. Son fils Léon meurt dans un certain temps, ce que je vous ai dit. Son autre fils s'appelait Sergueï, va être arrêté par la police soviétique, il va disparaître. Il y aura un article affreux dans je ne sais plus quel Pravda ou Izvestia disant le fils de Trotsky qui dirigeait une usine, qui ne disait pas de politique Sergueï, a empoisonné volontairement, a asphyxié un certain nombre d'ouvriers. Une déclaration pareille signifie qu'il va disparaître, probablement qu'il a été tué. Enfin, toute cette famille a été écrasée par la volonté infernale d'un homme comme ça. Cependant, retenez bien ceci. Nous sommes en présence de quelqu'un à peu près comme Lénine, mais avec moins de dignité profonde que Lénine, qui vit pour une idée. Hein. Bon, il va gagner sa vie comme il pourra, c'est pas un homme qui va accumuler l'argent, Jamais vous ne le verrez dépenser beaucoup de fric pour son plaisir. Je dois vous dire cependant que si dans ma vie, il parle avec ironie de ceux que les prolétaires appelaient les sauve-bourgs. Sauve-bourgs, ça veut dire bourgeois soviétique. Et il en était un. Pensez donc en 1921, lorsque le prolétariat a la condition si affreuse que Lénine lui-même a décrit comme un prolétariat est misérable comme il l'a jamais été. Et pense que M. Trotsky, parce qu'il s'appelle Trotsky, a besoin de se soigner qu'on l'a voir filmer. Avec une certaine imprudence, enfin, en se rendant pas compte de ce qu'il fait. Il dit dans le train spécial qu'on avait mis à vos dispositions, il y avait un wagon de salon. Une fois, moi, je me suis trouvé dans un train spécial, j'étais à ce moment-là en Égypte, le ministre français de l'Éducation nationale, qui s'appelait Jean Zay, était venu en visite, alors il avait déjà voulu m'emmener en haute Égypte, j'ai vu que c'était un train spécial, et bien, il y avait en effet un compartiment avec une salle de bain, il y avait un compartiment salon, il y avait un compartiment bibliothèque, et bien, Trotsky, au moment où il a fait sauter les crèves, va dans ce train spécial magnifique, il va passer 4 mois. Et il est venu allongé au soleil de Soukoum, sous le palmier, en face de la mer. Donc c'est un sauve-bourg, donc c'est quelqu'un qui a tout de même profité, matériellement, de la révolution. Mais je ne l'appellerai pas un profiteur. C'est un homme qui appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui la nomenclatura, quoi, qui était bénéficiaire de privilèges spéciaux. Je sais, comment vous dites, a écrit, je vais vous dire par-dessus la fin. Dans cette lettre dure, cruelle, que dont je vous ai lu une phrase tout à l'heure en disant tu as manqué d'énergie, je sais avec ceci qui me touche beaucoup. La vie humaine n'a de sens que dans la mesure où elle est au service d'un infini, lequel infini pour nous est le bien de l'humanité. Ben ça, c'est la pensée de Trotsky. Trotsky est quelqu'un qui a réellement essayé de travailler pour autrui. Et puis André Breton, aux obsèques de Natalia Sedova, c'est dans la deuxième phase de deuxième de Trotsky, qui en 1962, c'est en somme de qu'elle est morte, a prononcé la phrase que voici sur laquelle je veux terminer, à propos de ceux, disait André Breton, ceux qui, d'un mot singulièrement trompeur, se déclarent matérialistes, alors qu'ils n'ont vécu que par l'esprit et par le cœur. 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 Que par l'esprit et par le cœur.